Vous êtes sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous n'avez pas été trop touchée par les orages. Encore merci pour cette belle soirée que nous avons passée ensemble hier soir à l'occasion de la fête de la musique. Vous avez été formidable, audacieux, généreux. Votre joie de vivre nous a fait du bien. Merci. Et pardon à tous ceux qui avaient appelé, qui ont laissé des messages sur le répondeur. Vous aviez envie de chanter avec nous. On n'a pas pu passer tout le monde, on en est désolé, mais retenez vos places pour l'année prochaine et la fête de la musique. Vraiment, on sera ravis de vous entendre à nouveau. Maintenant, on va se parler en toute confiance jusqu'à minuit et demi. Caroline et Paul vont vous accueillir au standard de Parlons-nous, sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS et sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Célia.
Bonsoir Caroline, ravie de vous entendre. Donc moi, c'est Célia.
Oui.
J'ai 50 ans.
Oui.
Je m'occupe actuellement de ma maman qui a 88 ans. Elle est gravement malade depuis 2 ans, alors qu'avant elle était très dynamique et très occupée.
Oui.
Maintenant, elle ne communique plus trop. Je suis souvent en train de m'occuper d'elle, aller chez le médecin, faire les courses et faire les papiers. Et je suis un peu en colère parce que mes frères sont dans le nord, moi je suis dans le sud.
Oui.
Et il n'y a que moi qui m'occupe d'elle. Et je suis très en colère parce que, étant petite, elle s'est occupée de moi, bien sûr, normalement, sinon je n'aurais pas grandi. Mais elle ne m'a jamais dit je t'aime, elle ne m'a jamais prise dans ses bras, elle ne m'a jamais montré aucune marque d'affection. Et là. Comme je lui tiens un peu rancune, et ben parfois je lui crie un peu dessus, la pauvre. Je lui crie un peu dessus quand parce que je suis constamment en train de la ramener dans le réel, parce qu'elle n'est pas dans le réel, parce que elle a une sorte de psychose persécutante dans sa tête. Elle se sent persécutée par ses voisins, par exemple.
Oui.
Et puis je dois constamment m'occuper d'elle et c'est pas évident.
C'est lourd
quoi.
Pour vous, oui. Oui.
C'est pas évident.
Quand vous dites que vous devez constamment vous occuper d'elle, c'est-à-dire vous habitez donc à côté de chez elle, vous
êtes
tous les jours.
J'habite à 2 kilomètres de chez elle.
Ah oui, en effet.
J'habite à 2 kilomètres.
Donc vous y allez tous les jours
Presque tous les jours, oui. Oui, j'ai toujours un médicament à lui ramener. Il faut que je l'amène chez la psychiatre. Il faut que je lui fasse ses courses, ses papiers, que je lui arrange ses rendez-vous avec l'extérieur. Que je lui rappelle sans cesse qu'elle a kiné, sans cesse que... Enfin, il faut que je lui rappelle des tas de trucs, que je la remette dans la réalité, parce qu'elle ne sait même pas quel jour on est, ni quelle année on est.
Oui, son état s'est détérioré assez rapidement. Vous dites il y a deux ans, elle était...
Il y a deux ans, elle était dynamique, active, fonceuse, depuis 2 ans, elle est malade.
La psychiatre parle d'une forme de persécution, c'est ça?
Une forme de persécution qui se passe dans sa tête, quoi.
Oui,
en fait.
Oui. Avec vous, ça va. Ça porte
avec
sur les voisins
moi, ça va,
essentiellement.
Elle a pas peur.
D'accord. D'accord. Et alors, je comprends que ça. Enfin. Que vous soyez évidemment fatigué et puis
oui.
Finalement tout repose sur vos
sur
épaules
moi.
Alors que vous avez des frères et...
Oui, j'ai des frères mais ils ne s'occupent pas d'elle. C'est moi qui m'occupe de ma mère.
Oui.
C'est moi qui fais toutes les démarches pour ma mère. Alors qu'elle m'a même pas dit un je t'aime, elle m'a même pas dit...
Oui, c'est ça qui vous
pèse. Je suis un peu en colère contre elle. De devoir m'occuper d'elle comme ça, alors qu'elle m'a jamais montré des signes d'affection.
Oui, c'était une pas une mère, maman. Une,
elle ne m'a jamais compris. Elle ne m'a jamais compris.
Oui.
Elle ne m'a jamais compris. Et elle ne me comprendra jamais.
Oui. Oui, c'est pour
alors,
ça aussi.
Alors, comment faire le deuil d'une mère parfaite?
Bonne question. Bonne question. C'est-à-dire que ça ravive le fait de... Vous êtes très proche d'elle, géographiquement, et maintenant, dans le quotidien. Et alors qu'en fait, elle vous a manqué. Enfin, il y a quelque chose qui vous manque,
qui renforce
au fond, aujourd'hui, encore plus cette frustration que vous avez de ne pas avoir été plus proche, parce que...
Ouais. Tout à fait. C'est pas évident.
Il est toujours possible de l'évoquer, ça, d'en parler de cette relation. C'est bien d'ailleurs de le faire du vivant du parent, pour ne pas rester après son départ avec le poids du chagrin et de ce qui n'a pas été.
Je sais pas quoi lui dire. Je sais, mais je sais pas comment.
C'est pas avec elle en fait.
Je sais pas quoi lui dire.
Oui, c'est pas à elle en fait qu'il faut le dire. C'est que vous ayez un endroit, un lieu pour déposer tout ça. Parce qu'elle n'est plus en mesure d'entendre votre mère aujourd'hui. Comme vous dites, elle est un peu partie dans une autre réalité.
Oui, elle est partie dans une autre réalité ou un autre monde.
Et on voit bien que c'est dur pour vous et que parfois, du coup, vous le dites, fâchée. Donc vous lui criez après parce que c'est aussi fatigant, un peu usant. Et après, vous vous en voulez à vous, finalement.
Oui.
C'est ça, parce que vous vous rendez bien compte que elle est plus en état de comprendre, et vous vous en voulez au fond de crier. Ce qui serait peut-être bien d'ailleurs, ça serait un peu de déléguer pour.
Comme elle laisse un peu son appartement à l'abandon, j'ai fait les démarches pour elle.
Oui.
De lui trouver une aide à domicile pour le
mois
d'août.
C'est bien. Oui. Oui, ça vous soulagera un peu.
Oui,
même quand vous me dites, par exemple, que vous devez passer pour lui donner ses médicaments, il peut y avoir un service à domicile d'une infirmière. Vous voyez, pour des
Oui, elle le fait déjà. Disons que je vais chercher les médicaments à la pharmacie pour elle, quoi, c'est ça.
Ah oui, d'accord, je comprends.
C'est ça.
Oui.
Il y a déjà une infirmière qui passe pour lui donner ses médicaments. Mmh. Mais la pauvre, ça la rend loque.
Les médicaments qu'on lui donne ?
Les médicaments qu'on lui donne, ça la rend loque. Elle fait que s'allonger sur son canapé toute la journée. Elle regarde plus la télé. Elle lit à peine. Elle fait plus rien, quoi. Elle est complètement inoubliée
peut-être
par ses voix, quoi.
Ah, elle entend toujours des voix.
Elle entend toujours des voix dans sa tête.
Ah oui, donc du coup, elle ne peut plus, elle n'éprouve plus de plaisir à regarder la télé, à lire, parce qu'elle est envahie par ses voix.
Voilà.
Mais alors, c'est que le traitement n'est pas bien adapté.
N'est pas très adapté, non.
Mais ça serait bien d'en parler à sa psychiatre, parce qu'il faut trouver le bon dosage.
On la voit, sa psychiatre.
Oui, c'est ce que vous m'avez dit.
Mais moi, j'ai décidé de prendre un avis extérieur.
Auprès de qui ?
Parce qu'elle veut lui augmenter son traitement alors qu'elle est déjà loque, ma mère.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudrait... Il y a des traitements maintenant qui peuvent bloquer, enfin, stopper ce mécanisme hallucinatoire, le fait d'entendre des voix, mais sans pour autant que la personne soit complètement abattue.
C'est son cas.
Mais il faut trouver le dosage. Et c'est pas évident, en plus, chez les personnes âgées. Parce que c'est quand même des substances assez fortes.
Ça peut la tuer si on augmente trop aussi.
Ah non, la tuer, non.
Ah non.
Non.
Non,
non la tuer, non, mais la mettre un peu dans un état de prostration. Pardon.
De prostration, oui, voilà.
Donc, ce qui n'est pas le but non plus.
Oui, non.
Mais c'est compliqué chez la personne âgée. Vous voyez, c'est déjà, il faut trouver... Il y a combien de temps qu'elle prend ses médicaments, votre mère ?
Ça fait 2 ans.
Oui. Et les voix sont toujours présentes.
Et les voix sont toujours présentes.
Oui, donc là, ça ne va pas.
Non, ça ne va pas. Elle a même fait des séjours psychiatriques à l'hôpital pour que la psychiatre lui essaye de lui trouver un traitement qui lui conviendrait mieux.
Oui, c'est bien.
Et finalement, elle n'a pas réussi.
Ah bon ?
La psychiatre, elle n'a pas réussi.
Mais est-ce qu'il y a une forme de démence qui vient se greffer dessus
ou ça relève uniquement de la psychiatrie?
C'est pas neurologique, c'est uniquement psychiatrique, d'accord.
C'est uniquement psychiatrique, oui, tout à fait, tout à fait.
Et quand vous lui dites à la psychiatre qu'il y a toujours ce phénomène de voix, qu'est-ce qu'elle vous répond?
Oh, ça c'est embêtant. Et puis elle poursuit.
Bah oui, c'est embêtant
elle
pour le moins.
Elle poursuit, elle fait l'ordonnance, merci, au revoir.
Oui, bah alors vous pouvez prendre un autre avis.
C'est pour ça que je prends un autre avis le 30 juin.
Oui, c'est bien, vous avez
je
raison.
Je prends un autre avis le 30 juin.
Vous voyez un autre psychiatre.
J'ai un psychiatre gérontologue.
Bah c'est très bien, vous avez bien fait.
Et je me suis battue pour son aide à domicile. Je me bats pour qu'elle voie un autre psychiatre.
Oui. Oui, vous faites beaucoup de choses.
Hein. Je fais beaucoup de choses pour
elle.
Oui,
oui.
Je fais beaucoup de choses.
Et comment vous faites par rapport à votre vie, à vous, alors, Célia?
Eh bien, écoutez, comme je ne travaille pas, elle en bénéficie, quoi.
Et oui, mais c'est un peu un piège.
Et oui, c'est un peu un
piège. Que vous voyez, si vous, enfin, vous auriez
un travail,
voilà, une activité compliqué. Professionnelle, vous seriez obligé
de composer avec.
Or là, c'est comme si tout votre temps de disponible, vous deviez le consacrer à votre mère, et forcément, c'est lourd.
Presque.
Ça serait déjà lourd si vous aviez eu une maman attentionnée, enfin avec qui vous aviez une relation affective, proche.
Ah oui, j'aurais tellement aimé.
Et oui, mais ça serait lourd quand même, parce que la situation est angoissante.
Le chagrin serait plus intense, il me semble.
Pas forcément.
Enfin, je sais pas.
Pas forcément. Vous savez, on voit justement chez les personnes qui, comme vous, ont manqué. Enfin, comme vous dites, elle s'est occupée de vous comme elle a pu, à sa façon. Mais bon, elle n'a pas pu. Vous ne vous êtes jamais senti comprise par elle. Enfin, vous avez souffert un peu d'un manque de proximité.
Oui, tout à fait.
Et c'est souvent plus compliqué parce que, avec l'âge, vous la voyez aujourd'hui d'autant moins accessible du fait maintenant de ces troubles psychiatriques.
Oui.
Et ça fait remonter tous vos manques. Et parce qu'aujourd'hui, les rapports s'inversent. C'est vous qui êtes amené à vous occuper d'elle, à veiller sur elle, à prendre soin d'elle. Et ça vous ramène à ce que vous n'avez pas reçu, vous.
Oui, c'est pour ça que j'étais en colère au début quand je me suis occupée d'elle.
Oui.
J'étais en colère.
Oui, oui.
J'étais en colère et je l'ai houspillée un peu.
Bah, c'est courageux de pouvoir le dire, Célia, vous savez.
Oui, mais je me dis que c'est pas bien. Nous, on en a...
Mais
je
j'entends.
Me dis que c'est pas bien de lui houspiller dessus.
Mais oui, j'entends votre culpabilité et ça, c'est lourd à porter aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait pas, bien sûr que ça ne sert à rien. Au fond, votre mère, ça la stresse davantage et ça peut renforcer ses obsessions. Et vous, ça vous rend malheureuse parce que vous vous sentez coupable et donc, vous voyez, c'est bon pour personne. Mais c'est pour ça que je vous disais que ça serait peut-être bien que vous puissiez un peu en parler de tout ça. Je comprends que vous éprouviez le besoin de le faire. Comme vous m'appelez moi ce soir. Vous avez besoin d'en parler.
Oui, bah écoutez, je pense que...
D'être un peu accompagné, peut-être.
Je pense que je peux me faire accompagner, oui.
Ça serait possible?
Oui, je pense que ça serait possible. J'ai un CMP pas loin de chez moi.
Oui, ben voilà. Vous pourriez ponctuellement aller parler un peu de ce que vous vivez.
Oui.
Vous voyez, ponctuellement, avoir vous un endroit pour déposer un peu ce que ça fait remonter en vous. Comme souvenir, comme manque. Et peut-être ça vous aidera aussi à trouver... c'est pas simple, mais... la bonne distance. Parce que parfois, quand on a manqué comme ça d'une présence, le grand âge fait que vous êtes malgré tout, vous, une fille très aimante. Vous voyez, vous me dites, vous la houspillez, mais vous êtes là.
Oui.
Vous êtes là, vous prenez soin d'elle, vous faites en sorte que son quotidien, qu'elle ait ses rendez-vous, vous faites beaucoup de démarches pour elle, vous êtes très présente.
Je fais beaucoup de démarches pour
et parfois,
elle, tout à fait.
Et parfois, justement, c'est l'enfant qui a souvent le plus manqué qui est le plus présent.
Oui, oui. Je crois que c'est, une bizarrerie de la nature, comme on dit.
Et c'est pas si bizarre que ça quand on y réfléchit, parce que c'est une façon... inconsciemment de trouver un peu une place et comme si enfin...
De toute façon, j'ai pas le choix et elle a pas le choix parce que mes frères sont tous dans le nord et moi je suis dans le sud avec ma mère.
Oui, mais c'est un peu facile.
Il y a que moi pour m'occuper d'elle.
Bah oui, mais enfin, moi. Écoutez, aujourd'hui, on peut se déplacer à nouveau. Ils pourraient... Est-ce qu'ils prennent de... Est-ce qu'ils vous appellent pour savoir comment ça se passe comment...
Non, c'est moi qui les appelle. Oui, c'est moi qui les appelle pour leur dire comment ça
c'est
se passe.
C'est quand même incroyable.
C'est moi qui les appelle... Et y a un de mes frères qui doit venir cet été quand même.
Bon.
Mais c'est moi qui les appelle et ils me demandent des nouvelles de ma mère.
Oui.
Mais eux, ils font pas grand chose, quoi.
Et est-ce que
ils
vous
font pas grand chose par rapport à moi.
Voilà. Est-ce que vous leur dites que tout ça est bien lourd à gérer pour vous?
Non, je leur ai pas dit non.
Mais il faut leur dire, Célia. Il faut leur dire. Parce que là, alors d'accord, il y a le côté géographique, mais c'est leur mère également. Et certes, ils sont dans le nord, mais enfin, ils peuvent quand même venir. Ça peut être un week-end, ça peut prendre quelques jours. Bon, là, vous me dites qu'il y a un de vos frères qui va venir cet été. Impliquez-le dans les démarches. Eux, ils sont loin, ils ne mesurent pas forcément l'état, voyez, de votre mère. Non, pas fort. Vous êtes là tous les jours, donc vous voyez à quel point... vous êtes vraiment dans son quotidien.
Oui.
La distance les protège, vos frères.
Oui, oui.
Et au fond, ils...
Ça repose un peu sur moi, peut-être.
Complètement.
Oui, complètement, oui. Oui, tiens.
Complètement. Et donc, ils peuvent penser, être rassurés. D'abord, ils ne mesurent pas forcément à quel point c'est lourd. Et puis, vous assurez. Et voyez, vous ne leur dites même pas au téléphone. Donc après tout, ils doivent se dire, Célia est là, elle veille sur notre mère, tout va bien.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais il est important de leur dire, je suis fatiguée, c'est lourd, il y a beaucoup de choses à faire et j'aurai besoin de votre aide. Parce que même à distance, on peut faire des démarches.
Oui.
Vous voyez, contacter des organismes. Bon, pour les rendez-vous, c'est vous qui l'accompagnez chez sa psychiatre, chez le kiné. Mais à distance, ils peuvent se renseigner auprès d'organismes. Ce que vous faites pour l'aide ménagère. Il y a des choses qui peuvent se faire aujourd'hui à distance.
Mm-hmm.
Et ça serait bien qu'ils vous secondent un peu.
Mm-hmm. D'accord.
Vraiment.
D'accord. Mais je ne sais plus trop comment me situer par rapport à elle.
Oui.
J'ai l'impression de travailler pour elle. Quoi. C'est marrant. Oui. J'ai l'impression de travailler pour ma mère. Quoi. C'est bizarre comme sentiment.
C'est déroutant, oui.
C'est déroutant comme sentiment. Enfin bon, on n'en a qu'une, malheureusement.
Oui, mais on voit bien ça. Après, on rationalise. Ça, c'est, vous voyez, vous rationalisez en disant. Au-delà de ça, moi, j'entends que vous êtes en souffrance dans cette relation-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'à la fois, vous faites les choses, ce qui est peut-être une façon pour vous de vous rapprocher de cette mère qui vous a manqué. Et en même temps, ça ne marche pas parce qu'elle va mal. Et donc, vous n'êtes pas dans un rapport affectif. Vos propos le reflètent quand vous me dites, même si il y a de l'attachement à votre mère, mais quand vous dites j'ai l'impression de travailler pour elle, au fond ça montre aussi la distance que vous ressentez et distance qui vous fait souffrir parce que vous n'êtes pas une professionnelle, vous êtes sa fille, mais vous n'arrivez pas même dans cette situation à être proche d'elle. Et moi j'entends le poids du manque et des regrets derrière tout ça.
Oui. C'est vrai.
Donc, ce qui serait bien, je pense, c'est de déléguer comme vous le faites, le plus possible, tout ce qui peut être possible, voyez,
d'accord.
En faisant venir justement des professionnels.
D'accord.
Et ça, impliquez vos frères en disant,
non, parce
voilà.
Que, Non, parce que quand je m'occupe pas d'elle, par exemple, je suis bien occupée de m'occuper de, je suis bien obligée de m'occuper de moi et de mon logement, quoi.
Bien sûr.
C'est ça le truc.
Bien
donc,
sûr.
Donc j'essaye de passer une demi-heure avec elle pour discuter un peu avec elle. Mmh. Et puis après je m'en vais et je respire parce que j'ai ma vie, quoi.
Et oui, mais
et
oui.
J'ai quand même 50 ans.
Vous vivez seule.
J'ai pas de situation professionnelle, j'ai pas de situation conjugale, j'ai pas d'enfant.
Et oui. Oui, donc c'est comme si, et peut-être pour vos frères d'ailleurs, et c'est ça qui ne va pas, peut-être vos frères se disent, je ne sais pas, hein, mais au fond, ben, Célia, elle n'a pas de travail, elle vit seule, donc elle peut s'occuper de maman.
Oui, voilà, c'est ça, c'est très facile.
Oui, et c'est pas très, parce très que facile, vous vivez seule et que vous n'avez pas de travail que vous devez consacrer tout votre temps à votre mère.
Et oui, bien sûr.
Parce que vous le dites bien, quand vous rentrez chez vous, ça vous rend malade, voilà, c'est ça.
Ça me rend malade.
Ça vous rend malade. Donc il ne faut pas vous rendre malade. Et ça serait bien vraiment de prendre un rendez-vous à ce CMP, s'il est près de chez vous, pour avoir un peu un accompagnement, pour pouvoir un peu déposer tout ça. Et ça va vous amener à parler de votre histoire aussi, de ce lien. Et vous savez, il est toujours préférable de le travailler, ce lien, d'en parler en tout cas, quand le parent est encore là. Parce qu'après, quand le parent n'est plus, il y a quelque chose qui peut ressurgir avec une intensité très douloureuse. Alors il y a Anne qui dit du fait de la maladie de votre mère, de que vous êtes très investi auprès d'elle, ça vous ramène à votre enfance forcément. C'est compliqué le grand âge. Mais oui, mais oui. Il y a Evelyne aussi de Lisieux. Elle dit je vous écoute Célia et je me retrouve dans cette même situation du manque d'affection de votre mère, et je suis très attentive à ce que vous dites. Merci Célia pour votre témoignage, et elle se retrouve en vous.
Eh bien, je les remercie toutes les deux.
On va peut-être aller voir aussi du côté de la page Facebook avec Paul, si vous le voulez bien, Célia, parce que c'est compliqué, les parents qui avancent en âge. Ça renvoie aussi à notre propre vieillissement, ça nous ramène à notre enfance. C'est des temps comme ça qui se superposent et qui sont très chargés émotionnellement.
Tout d'abord, il y a Cornelia qui parle de sa maman de 84 ans, qui avait des troubles de persécution aussi, qui entendait des voix. Et le généraliste a prescrit un neuroleptique qui l'avait quand même bien apaisé.
Mais oui,
donc ça soulage énormément.
Oui. Merci à Cornelia, je suis surprise effectivement qu'on ne puisse pas la soulager davantage.
Il y a Jen qui s'est occupée de sa maman pendant 15 ans pour soulager sa sœur. Et je me suis aperçu du manque de bienveillance, de tendresse et de l'égoïsme de ma mère envers moi depuis ma naissance, seulement depuis une dizaine d'années. Oui. Et donc oui, il faut déléguer. Oui, il faut aller en parler pour ne pas avoir de rancœur après son départ et pour pas que ça ne revienne des années plus tard, en fait.
Oui.
C'est ce que vous conseille Jen. Il y a Fabienne qui dit « Rapprochez-vous du service gériatrique de l'hôpital le plus proche de chez vous. Un courrier du médecin traitant n'est même pas nécessaire. Ces services pratiqueront des examens, vous donneront le protocole à suivre. Il y aura aussi une équipe qui interviendra même au domicile de votre maman pour évaluer les besoins, connaître son environnement, voir ce qui est aussi dangereux pour elle, potentiellement. Fabienne dit « Nous avons connu cette situation avec notre maman qui est maintenant en EHPAD. Son médecin traitant n'était pas du tout à l'écoute et nous craignions une maladie d'Alzheimer qui, justement, malheureusement, s'est confirmée. Mais on a été énormément aidés par les services de l'hôpital, le service gériatrique de l'hôpital. Il y a Jacques qui vous dit que votre colère est légitime, libératrice aussi. Ne vous en voulez pas. Faites-vous aider. Videz votre sac. Et Vanessa qui dit « Célia, vous êtes une femme forte, mais prenez soin de vous également. » Ne vous oubliez pas.
Et oui.
Merci pour tous ces témoignages. Merci beaucoup.
Et vous avez bien fait de prendre rendez-vous avec ce psychiatre-là spécialisé en gériatrie. Et vous pourrez lui parler aussi à lui de ce que vous ressentez. Parce que souvent, ils travaillent en équipe. Et peut-être que dans son service, ils ont des psys qui pourraient vous écouter. Et qui proposent un accompagnement des familles, si nécessaire.
Ah, d'accord.
Voilà.
Très bien.
Voilà,
d'accord,
bien.
Très bien.
Bon courage à vous alors.
Merci beaucoup Caroline.
Merci.
Passez une bonne soirée, je vous écoute.
Merci
à bientôt.
Célia, votre confiance. Au revoir, à bientôt.
Merci, au revoir.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Alors, je reçois un petit message de Cornelia qui me dit, si j'ai bien compris Caroline, demain soir, pas d'émission parce qu'il y a France-Portugal. Et oui, oui, j'ai oublié de vous le dire, donc ben merci, vous êtes bien informés. La France jouera demain soir. France-Portugal, donc c'est l'équipe des sports que vous retrouverez et qui vous fera vivre ce match en direct toute la soirée sur RTL. Mais que cela ne vous empêche pas d'appeler les amis. Le standard de Parlons-nous, lui, il est là, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez nous laisser vos messages au 09 69 39 10 11. Je vous rappelle que c'est un numéro non surtaxé. Vous nous laissez demain un petit message dans la journée, dans la soirée. Vous nous dites en deux mots le motif de votre appel. Surtout, vous indiquez bien votre numéro de téléphone parce qu'il ne s'affiche pas. Et Paul se fera un plaisir de vous rappeler. Bonsoir Eric.
Bonsoir madame.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ben je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous?
Moi, ça va très bien. J'ai dit à votre assistant que je vous ai appelé il y a 10 ans de Malte. J'habitais à Malte jusqu'à cette année, oui, oui.
Ah oui, d'accord.
Et vous étiez, comme je lui ai dit, excusez-moi de citer le nom, vous étiez sur Europe à l'époque.
Oui, ben oui. Voilà. Et voilà, et maintenant je suis sur RTL, et vous m'avez retrouvé, c'est bien. Et vous n'êtes plus à Malte alors?
Non, je suis bloqué, je suis dans ma demeure du Val d'Oise, je ne veux pas citer la ville.
Oui.
Et ça va très bien.
Ça doit changer de climat, surtout en ce moment-là.
Oui, le climat est infect ici, mais bon, c'est pas grave.
Oh, infect quand même, il ne faut pas pousser.
Ah oui, il fait trop chaud, il fait trop froid.
Ah oui, bon, ben oui. Et alors, depuis combien de temps êtes-vous revenu là en France?
Je suis revenu depuis mars l'année dernière. Et cette année, par téléphone, je me suis arrangé de vendre le business que j'avais là-bas. Je ne vais pas vous citer lequel parce qu'on n'a pas le droit. Et donc, moi, j'étais dans le voyage pendant 40 ans.
Oui.
Je faisais le tour du monde, les États-Unis, les pays arabes, Israël.
Oh, bah, c'est pas mal, hein, comme job.
Oui. Et puis, j'ai fini ma... J'ai fini, comment dirais-je, pas ma vie. Moi, je ne suis pas vieux. J'ai 75 ans, mais je ne l'ai fait pas, paraît-il.
75 ans?
Oui. Mais
moi, sur votre fiche, j'ai 49. Dites-moi, on vous a sacrément rajeuni.
Non, c'est 75, j'avais dit. Mais il m'a répété tout à l'heure. Je lui ai dit, non, je n'ai pas 49. Ma femme a 29 ans. À 39 ans, pardon.
Ah, c'est ça, il y a eu un petit... Ah,
mon épouse actuelle.
Ah, votre épouse a 39 ans.
Il m'a dit, non, moi j'ai pas 49, j'ai 75 ans.
Oui, d'accord.
Et mon épouse, elle a 39 ans. Alors, l'histoire, c'est de mon épouse dont il s'agit actuellement.
Oui.
Je suis marié avec une femme qui était très, très gentille, qui est toujours très gentille, sauf qu'elle a disjoncté. Et moi, je n'avais pas perçu cela pendant nos fiançailles, parce qu'on s'était mariés en 2018 à Port-au-Prince. Je ne cite pas son nom, évidemment.
Ah ben non.
Elle porte le nom d'une noblesse royale, et descendante.
Oui. Bon, on ne va pas trop le dire.
Voilà, oui. On n'a pas trouvé, c'est vrai. Non, mais on ne saura pas. Et malheureusement, je vous dis, elle m'aime toujours, mais elle n'est pas là. Elle est, comme on dit en anglais, elle est out of order. Elle n'est plus là. Le cerveau ne fonctionne pas.
Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Ben, il lui arrive qu'elle était plus ou moins dans une famille où elle avait un frère autiste. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Elle avait un frère qui est plus jeune qu'elle de 3 ou 4 ans. Et quand il me voyait, parce que j'ai fait quand même 8 allers-retours à Port-au-Prince pour voir cette personne, je l'ai aimé, je l'ai marié. J'ai même le consulat français qui m'avait mis en garde. Ils m'ont dit parce qu'elle avait demandé à... un visa à deux reprises, on lui a refusé. J'ai dit pourquoi on lui a refusé. Il a dit en France, pour les Haïtiens, il faut quand même 50 000 euros de dépôt sur un chèque pour prouver qu'ils ont de l'argent parce qu'on n'a pas confiance aux Haïtiens.
On vous a dit ça?
Au consulat de France à Port-au-Prince, oui. Ah oui, bien sûr.
Très curieux.
Quand j'ai entendu ça, je vous assure, Caroline, quand j'ai entendu ça, c'est là que j'avais envie de la sortir. Bon, je l'ai ramenée, je l'ai sortie, tout ça.
Et sortie de quoi, puisqu'en fait... La situation de Haïti est très compliquée, malheureusement.
Mais elle est plus que compliquée.
Le pays est extrêmement éprouvé, tant sur le plan des catastrophes naturelles que sur le plan politique.
Moi, je me trouvais là-bas, j'avais une voiture de location et subitement, il y avait un tremblement de terre. Je vous raconte ça, cette histoire, parce que vraiment, j'étais mal. Hein. Et je vois les roues qui se coincent sur une autoroute qui s'ouvre, les gens se sauvent et tout ça. Je me suis dit, attends, je rêve, ou c'est un film de joke, ou c'est quelque chose qui ne va pas. Je prends ça à la rigolade, parce qu'avec le temps, mais c'était en 2018, catastrophe. Mais
elle est là depuis combien de temps, votre femme, en fait, où vous êtes
Ma femme est là depuis le 22 octobre dernier. Non, pardon, 22 octobre 2019. Parce qu'entre-temps, on a eu un enfant. Et ce qui me fatigue maintenant, vraiment, moralement, ce qui me dérange, c'est que cette enfant qui est merveilleuse, et je vous dis, ma femme, elle n'avait que 37 ans quand elle a eu cet enfant. Maintenant, elle a 39 ans passé. Et moi, je vous ai dit, 75 ans bientôt.
Oui. Et donc, vous avez une petite fille de 2 ans. Hein.
2 ans et demi, mais c'est une merveille comme enfant. Elle me ressemble à deux gouttes d'eau. Quand j'étais jeune, j'étais bel homme, beau gosse et tout ça. Et c'est pas ça le problème.
Non.
Depuis l'âge de 18 ans, j'ai joué de l'harmonica, du synthétiseur, de la guitare. Moi, personnellement, c'était pas mon métier, mais je joue pas mal d'instruments de musique.
Mais pour en revenir à votre femme, en fait, parce que là, je me perds un petit peu.
D'accord.
Donc, vous dites qu'actuellement, c'est comme si elle était absente, c'est-à-dire qu'elle elle va mal, elle souffre de troubles psychologiques. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas citer. Dans le département où je vis, je connais une personne depuis 40 ans qui est dans un truc administratif. Je ne peux pas le nommer non plus. Je n'ai pas le droit, on m'a dit. Et donc, cette personne me connaît très, très bien. Puis un jour, j'ai eu un appel de son assistante qui me dit, attendez, monsieur Cohen-Albert, vous n'êtes pas sur tel département? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Mais il m'a dit, madame Intel, qui est la présidente du conseil du Val-d'Oise, elle n'est plus actuellement. Elle m'a dit de vous rappeler pour savoir, parce qu'elle vous connaît très bien.
Oui, mais on se perd un petit peu là. Pardonnez-moi, parce que vous digressez beaucoup et j'ai du mal à vous suivre. Finalement, quel lien vous voulez faire avec votre épouse?
Avec mon épouse, je vous dis qu'elle est perdue.
J'essaye de comprendre en fait ce qui se passe, parce que vous me dites qu'elle est perdue comme si elle n'était plus là. Alors, est-ce que c'est qu'elle se sent déracinée? Elle est en dépression? Elle est de...
Non,
qu'est-ce
elle est en dépression, mais elle est vraiment en dépression, parce que la personne avec qui j'ai parlé, parce que pour l'instant, elle est suivie dans une association, et dans cette association, malheureusement, quand on les appelle, ils ne répondent même pas. Je ne peux pas vous dire le nom de l'association.
Non, mais je n'ai pas besoin, en fait.
D'accord, voilà,
c'est pas. Vous voyez, l'important, ce n'est pas de donner des noms de structures, c'est d'essayer de m'expliquer, en fait, un petit peu où vous en êtes. J'imagine que si elle va mal, c'est compliqué pour vous, parce qu'il y a quand même cette petite fille de 2 ans et demi. Alors, qui s'en occupe
Elle s'en occupe comme elle ne s'en occupe pas, parce qu'elle est, suivie par une psychologue femme. Et que, apparemment, quand j'ai parlé avec l'association en question, elle m'a dit, rassurez-vous, elle est très bien. Et moi, j'ai insisté pour qu'on puisse me donner un certificat comme quoi elle est suivie et comme quoi elle est nourrie et logée, tout ça. Et parce que j'ai menacé par une lettre commandée que je vais saisir la justice et tout ça.
Mais pour quelle raison vous voulez saisir la justice?
Parce que je voulais demander l'abrogation de mon mariage au consulat de France. Et on m'a dit, on ne veut pas abroger, il faut divorcer. J'ai dit, monsieur, j'ai marié une loque, j'ai marié une femme malade. Moi, je ne savais pas qu'elle était malade, mais elle est complètement à la masse.
C'est terrible comme vous en parlez.
Pardon, madame?
C'est très désobligeant, la façon dont vous en parlez.
Exactement.
Vous dites, j'ai marié une loque, j'ai marié... Enfin, je suis désolée, vous... C'est
oui, madame,
très dur. Et c'est la mère, quand même, de votre petite fille.
Je sais, madame, et encore, je vais vous dire, madame Caroline, j'aime beaucoup ma femme. Seulement ma femme, elle a des changements d'humeur, des sautes d'humeur que je n'arrivais pas à
comprendre. Elle a besoin de soins, votre femme.
Elle a besoin de soins.
Semble-t-il, peut-être, d'après ce que vous me dites.
Oui, elle est suivie en ce moment, Caroline.
Bon, bah alors... Tant mieux, parce qu'il y a, vous ne seriez encore, ça serait que votre couple, j'ai envie de dire, on peut toujours se séparer. Moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que vous avez une petite fille de 2 ans et demi.
C'est ça
et ça serait bien pour elle que sa maman aille mieux, donc qu'elle soit bien prise en charge.
Eh bien, je vais vous dire, je l'ai vue une fois en 2 ans et demi. Elle avait à peu près 1 an. Parce que, deux ans et demi, un peu moins. Elle avait 8 mois. Et elle était douce comme tous ses enfants. Et je vous ai dit, elle me ressemble physiquement. Elle a les mêmes dents, les mêmes oreilles que moi.
Attendez, là, je ne comprends pas. Parce que vous ne vivez pas ensemble, donc ?
Non, je vous dis, elle est. Moi, je suis dans le Val d'Oise.
Non, mais moi, je ne comprends pas ce que vous. Pardonnez-moi, mais c'est assez confus. Vous me dites que vous êtes mariée, qu'elle est venue en France en 2019,
oui,
que vous avez une petite fille.
Oui, elle est suivie par une psy. Elle a décidé d'être pas loin de Cergy pour ne pas expliquer où sa famille habite, c'est-à-dire ses frères et ses grands frères, qui sont naturalisés français, qui habitent en France depuis à peu près une quinzaine d'années. Oui. Et c'est là-bas qu'elle se sent le mieux. Mais comme elle est suivie, j'ai appelé un des frères et il m'a dit, bon, pour l'instant, elle est malade et tout ça. Voilà pourquoi elle ne vit pas avec moi. Elle vit dans une association, vous savez...
Avec la petite.
Avec la petite. Et par laquelle mon épouse... Elle passe des tests d'enfants qu'elle a 4 ou 5 ans. C'est ça que je ne comprends pas. Et ils ne veulent pas me dire la vérité. Moi, je leur ai dit ce qu'il en est. Voilà, je pense que je me suis mis sur les rails pour vous expliquer.
Et quelle est votre demande, alors, ce soir, par rapport à moi ?
Ma demande, c'est vous raconter cette histoire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? C'est pas une demande.
J'ai du mal à vous éclairer parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Vous me parliez de vouloir votre désir de faire abroger le mariage. Vous pouvez divorcer.
Non, c'est pas un désir. Du fait que j'ai été leurrée par l'ambassade de France, pourquoi je vais vous dire j'ai été leurrée ? Il y a un visa touristique qui lui a été confié, qui lui a été remis, donné sous une condition. Il faudrait que dans l'année qui suit, qu'elle prouve qu'elle est au domicile conjugal. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi pour l'amener. Je suis allé 4 fois pour Paris, ça fait 8 avions que j'ai pris. Et finalement, une fois là, elle n'a pas mis les pieds chez moi. Et donc, j'ai écrit par lettre commandée avec accusé de réception à l'ambassade de France à Port-au-Prince. Mm-hmm. Ils ont mis 8 mois pour me répondre. Et dans leur réponse, ils se sentent évasifs. Ils m'ont dit, on ne peut pas demander l'abrogation.
Je comprends. Vous avez le sentiment, donc, que cette femme s'est servie de vous pour pouvoir venir en France.
Ça
serait comme un mariage blanc.
Tout à fait. D'accord. Et moi, je voulais simplement qu'il y ait une espèce d'abrogation, puisque le consulat de France, dans le visa touristique qu'on lui avait remis, il est spécifié comme ça. Il faut qu'elle prouve. Elle n'a jamais prouvé, puisqu'elle est restée chez moi.
Oui, mais au fond, qu'est-ce que ça change ? Enfin, pour vous, je comprends, Eric, mais si ce n'est... Qu'est-ce que ça change, au fond ? Qu'est-ce que vous voulez dire, dissoudre cette union ? Après tout, au lieu de vous lancer dans une... Il n'y a pas d'union, mais il y a malheureusement une petite fille. Enfin, malheureusement. Elle est là, donc il y a quand même eu un moment... et il y a cet enfant. Comment d'ailleurs vous investissez-vous par rapport à cet enfant ? Parce que vous me dites, vous l'avez vu une fois en 2 ans et demi.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, matériellement, j'ai ce qu'il faut. Je vis dans une très belle maison.
Non, mais moi, je ne vous parle pas de ça, Eric. Hein. Je suis désolée.
Oui, d'accord.
Enfin, pardonnez-moi, mais là, je trouve qu'on va un peu se décentrer de vous. Et il y a quand même cet enfant au milieu.
Mais l'enfant, peux le recevoir, ce que je veux dire par là. Moi, je peux le recevoir, m'occuper d'elle, puisqu'elle va aller vers ses 3 ans maintenant, bientôt. Et en plus, elle est surdouée. Elle est vraiment surdouée. On ne dirait pas qu'elle a que 2 ans et demi. On dirait qu'elle a 5-6 ans. Elle est avancée, je vous ai dit. Ce n'est pas des histoires. La dernière fois que je l'ai vue, elle est restée pour une journée, la mère, avec moi. Je lui ai donné l'harmonica à l'enfant, il a joué. Il a joué comme je joue à l'harmonica. Je ne comprenais pas. Et j'ai dit à un de mes frères qui vit aux États-Unis, tu ne peux pas savoir comment il est surdoué cet enfant. Et mon frère aîné, il me dit, mais tous on est comme ça dans la famille.
Bon, oui, donc ça vient de vous, en fait.
Absolument, Caroline. Et donc.
Enfin, ça serait bien pour cette petite fille aussi que sa maman aille mieux. Peut-être qu'après tout, je ne sais pas, ce déracinement aussi a pu être violent pour cette jeune femme.
Non, c'était avant, je vous ai dit.
Qu'est-ce que vous envisagez finalement ?
Moi, j'ai envie d'avoir l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez ? La mère,
il ne faut pas séparer l'enfant de sa maman. Non, hein, c'est pas une bonne chose non plus pour la petite.
Non, je ne veux pas l'avoir à moi tout seul. Je voudrais qu'elle me la présente une fois par semaine ou par mois.
Mais ça, vous pouvez le demander auprès d'un juge aux affaires familiales.
Je l'ai fait, exactement, mais j'attends la réponse. Oui, bien sûr. je veux qu'une semaine par mois, ça me suffit, parce que moi, je lui donne l'éducation. Mais je vous dis, la dernière fois que mon épouse est venue ici, elle est montée dans le premier étage de ma chambre, où j'ai un, dans mon appartement, où j'ai un bureau. Et elle m'a ramassé son livret de famille, notre livret de famille, et sa carte d'identité que j'ai faite à Port-au-Prince. Et je n'arrête pas d'envoyer des textos avec mon propre téléphone que j'ai offert à ma femme, un deuxième. Et du coup, elle ne répond pas depuis 48 heures. Elle ne répond pas du tout. Mmh. Alors du coup, moi j'ai peur, est-ce qu'elle a eu une crise? Parce qu'un jour, elle m'a menacé, elle m'a dit « je vais me jeter par la fenêtre ». Mais moi, j'habite dans un pavillon. La fenêtre, c'est le premier étage du pavillon. J'ai dit, tu vas tomber sur le gazon. Ah, elle m'a dit, mais je peux le faire chez moi, là-bas. Et j'ai dit, t'as vu dans quel étage? Elle m'a dit, au troisième. Bon,
vous m'avez dit que votre femme est dans une association.
Oui.
Donc, j'imagine qu'on prend soin d'elle.
Mais elle n'est pas suivie 24 heures sur 24 heures. Elle est... J'ai reçu
c'est une association qui vient en aide aux Haïtiens?
Si vous permettez, non. Je peux vous donner le nom de l'association. Vous devez la connaître. Non. Oui, non, papa, ici, il y a de tout là-bas. Mais ce que j'ai appris d'après mes renseignements, on aide beaucoup les femmes qui sont isolées, qui sont d'origine...
étrangère ?
Étrangère, ou créole, ou malienne, et tout ça. Mm-hmm. Ma femme elle-même, elle m'a dit, elle a une copine maintenant qui a un enfant, que son mari est blanc, péjorativement. J'ai dit, ah bon, il est blanc, il n'est pas rouge.
Elle m'a Mais pourquoi vous n'avez pas vécu ensemble ? C'est ça, finalement, comment s'est-elle retrouvée dans cette association ?
Je viens de vous dire, Caroline... Moi, je vous dis, le 22 octobre 2018, on s'est mariés, je lui ai envoyé le billet d'avion, elle n'a jamais mis les pieds chez moi. Et je pense, vous avez saisi la situation, c'était pas uniquement pour les papiers, c'était pour avoir aussi le billet d'avion et le visa. Bon. Moi, je pense que c'était ça.
D'accord.
Ce que je vais vous dire, c'est qu'elle vient une fois par mois, elle me dit qu'elle m'aime, bon, avec le respect que je vous dois, elle me dit, oui, chérie, je t'aime toujours et tout ça, mais moi, je ne veux plus la toucher autrement parce qu'elle me dégoûte avec ce qu'elle a fait. Simplement.
Bon, bah alors vous pouvez mettre de la distance avec elle, mais effectivement, par rapport à votre fille, vous avez saisi le juge aux affaires familiales et vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse de façon à pouvoir voir votre petite, avoir un droit de visite. Et puis, voilà. Bon, l'important, c'est si vous pouvez être présent pour cette petite. C'est important parce qu'elle, elle a rien demandé,
cette petite fille. En plus, je vous ai dit, elle est surdouée, elle est vraiment...
Oui, mais enfin ça, bon...
Non, c'est rare de trouver des enfants, parce que moi, je ne suis pas violent, elle non plus, elle n'est pas violente.
Alors, il y a Joseph qui dit, vous ne pouvez pas désolidariser votre fille, tous les deux, et particulièrement avec sa mère. Aidez-la autant que vous pouvez, mais en tout cas, ne faites rien qui puisse nuire à cet enfant. Et ce qui pourrait nuire à cet enfant, c'est aussi de mal parler de sa mère. Sa mère est peut-être fragile, en difficulté, vous êtes senti vous lésé. Bon, c'est une chose, mais elle a aussi besoin de sa maman, cette petite. Donc, il faut attendre maintenant la décision du juge aux affaires familiales, de façon à ce que vous puissiez voir cette petite. Bon courage à vous, Eric. Au revoir.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Avant d'accueillir Hélène, peut-être une petite réaction, Paul, sur la page Facebook, RTL-parlons-nous.
Christine qui dit, écoutez, Eric, vous avez accepté d'épouser cette femme, vous semblez intelligent, alors pourquoi la renier aujourd'hui? Parce qu'elle semble hors d'usage, entre guillemets, pour vous, voilà. Pensez à votre enfant, surtout, qui a besoin d'un équilibre familial pour se construire. Vous ne lui promettez pas un avenir épanouissant en parlant ainsi de sa maman. Donc pensez-y bien, réfléchissez et surtout pensez à votre enfant.
Comment s'appelle cette auditrice ?
Christine.
Merci Christine, parce que c'est effectivement très pertinent. Je trouve que la petite fille était un peu la grande oubliée.
Oui, c'était le résumé de toutes les réactions à propos d'Éric.
D'accord, merci beaucoup pour toutes vos réactions. On va accueillir maintenant Hélène. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue sur l'antenne RTL.
Merci.
Je crois que c'est le premier témoignage de Célia qui vous a donné envie d'appeler.
Oui.
Oui,
exactement.
C'est ça qui était un peu. Enfin, qui s'occupait beaucoup de sa maman, qui, est âgée, a développé un peu un délire de persécution.
Oui.
Et Célia se sent bien seule parce qu'elle a des frères, mais tout repose sur elle.
Oui. Et ça m'a fait réagir parce que. Je trouve que malheureusement, c'est très souvent le cas. Voilà. Que quand on accompagne un parent malade, on est très seul.
Oui.
Même quand on a des frères et sœurs, en l'occurrence, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis fille unique, donc de toute façon, la question de savoir qui allait s'occuper de ma mère ne se posait pas. C'était forcément moi, mais j'ai été quand même surprise. Faut croire qu'on est naïf par le nombre de liens que ça a fait sauter, quoi. À commencer par mon mari, qui ne m'a pas du tout soutenue. Pendant cette période, elle a quand même été malade 2 ans.
Oui.
D'une maladie qu'on savait incurable, donc ça ne risquait pas de s'arranger. Et il s'est montré, ça m'a révélé une facette de lui, très égoïste, très auto-centré, qui ne comprenait même pas pourquoi je m'occupais autant d'elle.
Ah
d'ailleurs.
Bon?
Oui ou non, il m'a dit, écoute, elle a 83 ans. Voilà.
Oui, c'est cynique.
Oui, c'est
comme s'il y avait une limite d'âge.
Pas drôle du tout. Oui, c'est un peu ça.
C'est votre mère et enfin, on se doit de prendre soin et d'accompagner. Non, et puis en plus, vous me dites, enfin, on va avoir le temps un peu de développer après les infos, Hélène, mais vous me dites en plus. Bien sûr que ça interfère dans la relation de couple quand on doit s'occuper d'un parent. Enfin, ça bouscule beaucoup de choses dans l'existence. Mais en plus, vous me dites, ça a duré 2 ans. Enfin, 2 ans. Plus, alors, on ne sait jamais au départ, mais franchement, on peut aussi un peu prendre sur soi et se dire, ça durera un temps et il est important d'être là.
Oui, parce qu'en plus, c'est une maladie dont on peut prévoir... l'espérance de vie est connue.
Ouais,
on sait
plus,
que ça va durer entre 3 et 6 ans.
Donc, elle n'est plus là, votre maman, aujourd'hui.
Non, elle est morte.
Hélène, on va continuer à se parler. Hein. Ce sera après les infos de minuit. Donc, vous ne raccrochez pas. Restez bien avec nous. À tout de suite.
RTL. Caroline Dublanche. Parlons-nous.
Minuit 3 sur RTL, c'est la suite de Parlons-nous jusqu'à minuit et demi. Vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous et peut-être pour réagir au témoignage, puisque avec Célia et maintenant avec Hélène, nous parlons de l'accompagnement des parents âgés et de tout ce que ça soulève aussi en nous comme interrogation, comme retour sur le passé, sur notre histoire commune, sur notre enfance, sur ce sentiment aussi de solitude que vous évoquiez, Hélène, juste avant les infos. Merci d'avoir patienté.
Oui.
Oui, alors vous dites, vous êtes fille unique, donc vous, il n'y avait pas... c'est vrai que souvent ça repose sur un enfant. Bon, vous saviez que la prise en charge de votre maman, eh bien, c'est vous qui alliez vous en occuper.
Oui,
mais il y a beaucoup de liens qui se sont délités et en premier lieu, le lien conjugal. Vous dites que votre mari...
Oui, absolument. Alors, moi, je précise que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à Célia, c'est que j'avais de très bonnes relations avec ma mère.
Oui, oui.
Et pendant sa maladie, quand elle a compris qu'elle ne s'en sortirait pas, on a beaucoup parlé.
Oui.
Et parlé notamment de l'issue fatale de cette maladie. Et j'étais même étonnée... de sa lucidité, de son courage et de notre naturel à parler de tout ça. Voilà, et j'estime que c'est une grande chance que j'ai eue.
Oui.
C'est comme une espèce de cadeau qu'elle m'a fait.
Oui.
Alors, elle l'a fait au prix de sa souffrance, hein, parce qu'elle a quand même beaucoup souffert pendant ces 2 années. Oui. Ben oui, elle a souffert, oui.
Mais elle est restée lucide, c'est ça, elle
absolument, oui, vraiment, quasiment jusqu'à la dernière semaine. Où il a fallu beaucoup sédater parce que sinon elle était très angoissée, voilà.
Oui.
Mais sinon, jusqu'à la dernière semaine, elle était encore tout à fait lucide. C'était pas une maladie dégénérative, c'était autre chose. Et donc ça, je trouve que vraiment, par rapport à des enfants adultes ou pas, qui voient leurs parents mourir d'une mort brusque, très brutale, c'est une grande chance.
Je suis d'accord avec vous. Parlez de cadeaux, mais oui, parce que c'est rare de pouvoir finalement en parler. J'allais dire avec sérénité, c'est toujours compliqué. Mais ça me fait penser actuellement à Axel Kahn, qui est atteint d'une maladie incurable, qui a publié des textes très émouvants sur... Il sait que bon, le cancer est là, qu'il est incurable, et sur ce qu'il veut continuer à préserver avec ses enfants, petits-enfants, leur transmettre, où il parle de sa mort qui s'approche, et où... j'ai été, comme beaucoup de Français, j'imagine, très impressionnée par... par la façon dont il en parle, par c'est rare finalement. Oui, et je me dis que pour ses enfants, c'est même si c'est des moments très durs, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se dire et se transmettre finalement aussi de ce moment-là.
Oui, et c'est un exemple.
C'est une leçon de vie, y compris exactement. Dans les derniers moments de la vie.
C'est ça, quand il dit que c'est la période la plus intense de son existence, une des périodes les plus intenses. Oui. Alors bon, ma mère, elle n'avait pas cette philosophie. Hein. Elle était très triste à l'idée de mourir, parce que, elle, sa pensée principale, c'était de se dire que elle ne nous verrait plus, mes enfants et moi. Donc ça, c'était très dur pour elle. Sinon, encore une fois, je répète, je trouve que c'est une grande chance quand on peut accompagner ses parents et qui ne sont pas en trop mauvais état et qui peuvent parler.
Se parler de choses aussi essentielles, aussi intimes. Enfin, il y a beaucoup d'amour au fond dans tout ça aussi.
Ah oui, énormément. C'est pour ça qu'on est choqués aussi. Enfin, moi, je l'ai été par l'attitude de l'entourage, quand je dis l'entourage, ça peut être en effet au sein du couple, où on se dit, mais j'ai un étranger à côté de moi, on ne se connaît pas.
Ça a dû être très violent pour vous.
C'était très violent, d'autant que j'ai bien compris qu'il était en rivalité avec elle, alors qu'elle était mourante et que lui, il était bien vivant. Mais il trouvait que j'étais trop mobilisée.
C'est incroyable, d'être auto-centré à ce point-là.
Oui, très auto-centré. Oui. Oui. Par exemple, quand j'ai dit que je n'allais pas pouvoir partir en vacances, sa première réaction, ça a été de dire « Ah ben alors, je vais partir tout seul. » Bon, je me suis dit « Mais enfin... » Bon, enfin, voilà. Et alors, évidemment, non seulement il y a eu ça, mais au travail, mais ça, on s'y attend davantage. Au début, tout le monde est très compréhensif, la hiérarchie est très compréhensive. En plus, il se trouve que pendant la maladie de ma mère, j'ai eu une promotion, ce qui était plutôt un gage, justement, de compréhension. Puis, on m'a dit, mais tu t'organises comme tu veux. Et moi, j'ai pris ça à la lettre, sauf que je me suis rendu compte que très vite, on m'a dit, mais tu n'étais pas là tel jour. J'ai dit oui, j'ai prévenu. J'ai prévenu que je serais à l'hôpital avec un dossier, mais à l'hôpital. Ah oui, mais il va falloir prendre un jour de congé. Enfin, qu'on me tienne un discours cohérent dans ce cas. Et à tel point que la tension est montée. Et un an après le décès de ma mère... j'ai demandé à partir et j'ai quitté ce boulot parce que c'était devenu intenable.
Et qu'est-ce qui est intenable, c'est le décalage au fond que vous avez vécu entre le discours qui vous a été tenu et les actes où au fond il y a eu aucune compréhension.
J'aurais préféré qu'on me dise d'abord qu'on ne me donne pas cette promotion, qu'on me dise c'est pas le moment. Tu es mobilisée ailleurs, on ne peut pas te donner des responsabilités, que je n'avais pas demandé d'ailleurs, et qu'on me dise, on comprend bien que tu accompagnes ta mère mourante, mais voilà, nous on attend quand même que tu sois là à 100%. Mais c'est pas du tout comme ça que les choses ont été dites. Hein. Donc ça, c'était vraiment... Et le pire, ça a été la réaction de ma fille. Alors là, ça a été véritable... maintenant elle a 22 ans, mais donc ça fait un peu plus de 5 ans que sa grand-mère est morte. Et alors c'est le moment, on était très complices toutes les deux, depuis toujours, vraiment. On avait de très très bonnes relations, elle était absolument délicieuse. Et à partir de là, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle ait compris que ça mettait en cause la relation conjugale, qu'elle y laissait sa grand-mère, que moi, évidemment, elle me voyait très chagrinée, très déstabilisée, oui. etc. Oui. Mais alors, elle est devenue très difficile à vivre, très difficile oui. à vivre, hein. À tel point que j'ai finalement accepté qu'elle parte en colocation juste après le bac, parce D'accord. que je ne tenais plus le coup.
Oui, et tellement elle était dure avec vous au quotidien.
Je la trouvais très dure, oui. Et puis,
vous étiez séparée de son père, déjà?
Alors, de toute façon, oui, parce que mon mari en question, là, c'était son beau-père à ma fille, c'était
D'accord.
pas son père.
D'accord.
Mais elle était attachée à lui, voilà. Elle oui. l'aimait bien.
Oui, donc votre, ça faisait vous, comme vous dites, sans peut-être que de son côté à elle, à 17 ans, il y a votre couple qui a explosé.
Oui.
Elle perdait sa grand-mère aussi, qui oui. était certainement attachée. Et puis vous étiez différente parce que forcément oui. entièrement tournée au fond vers votre mère
oui.
et dans
c'est
le
vrai.
Chagrin
oui.
aussi. Donc elle, oui. elle, du haut de ses 17 ans. Et c'est plus normal d'être auto-centrée à cet âge-là. Elle perdait beaucoup, au fond. Peut-être qu'elle était angoissée, peut-être aussi. Qu'il a
et oui, mais alors là, le truc, c'est que c'est toujours pas fini.
Ah,
et
d'accord.
Mais non, elle...
C'est-à-dire, elle, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'elle veut quasiment pas me voir, ni me parler.
Ah bon ?
Ben oui. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et donc, moi, en fait, quand j'ai mmh. accepté qu'elle parte en colocation malgré son jeune âge, oui. au début, j'étais pas trop d'accord. Et puis bon, avec son père, on a discuté. Et puis c'était mmh. tellement dur à la maison que j'ai dit oui. Et je pensais que ça allait apaiser justement
oui,
les tensions.
Pu.
Et pas du tout. Pas du tout. Et ça ne s'arrange pas.
Mais elle vous fait des reproches elle...
Alors... Bon, le principal reproche, ça a été de me dire qu'en me séparant de son beau-père, j'avais ruiné ses espoirs de famille, c'est son expression, parce que son beau-père avait une fille de son âge, à peu près de l'âge de la mienne.
Avec qui elle s'entendait bien ?
Avec qui elle s'entendait
ah,
bien, oui.
oui.
Et voilà, elle m'a dit ça
elle
m'a
fait
mal.
Elle ne se voit plus
Alors si, je crois qu'elle continue à se voir
D'accord.
un peu.
Ouais.
Si, si. Qu'elle continue à voir.
Oui, ça, ouais. a été douloureux pour elle,
oui.
cette rupture avec son beau-père, qu'elle aimait beaucoup,
oui.
avec cette jeune fille qui avait son âge
oui.
et qu'elle, qui était comme un peu une sœur, qu'elle s'était trouvée
voilà,
de cœur.
Voilà, exactement, oui. Surtout qu'à oui. côté de ça, elle n'a que des frères. elle a,
oui.
elle a
oui.
deux grands frères et oui. un petit frère. Hein. Donc, je pense qu'elle était contente d'avoir
oui.
une petite... Enfin, oui, un genre de petite sœur, quoi. Voilà.
Oui. Oui, donc elle vous en tient encore aujourd'hui pour responsable. C'est-à-dire
elle, Alors, elle dit « moins ». Elle me dit
Moi,
que ça
ouais,
lui est passé,
ouais,
mais
ouais.
il n'empêche que les relations ne se normalisent pas. Et
elle vous en veut encore.
Oui, elle m'en veut. Et du coup, on se dit des choses assez dures. Les rares fois où je dois la voir 3 fois par an, vous voyez,
oui.
Noël, son anniversaire, le mien, et puis voilà quoi. Et entre-temps, quand je téléphone, elle ne répond pas. Si j'envoie un texto, elle met 3, 4 jours, 5 jours à répondre. Ça a énormément modifié nos relations. Et,
elle est loin géographiquement ?
Mais pas du tout, elle est à 3 stations de métro.
Oh là là, oui, c'est
Donc
encore
ça, c'est
dur.
Encore plus difficile.
Oui,
ouais.
oui.
Parce que franchement, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas.
Oui, elle ne vous donne pas la possibilité, au fond, de vous expliquer, enfin d'en parler, vous lui proposez de la voir en disant
oui,
c'est pas possible.
Oui, mais elle me dit que elle n'en a pas besoin et enfin elle
oui,
va même
elle
plus
est
loin.
Dure,
elle,
oui,
elle est très dure
oui.
et du coup moi je sors de mon rôle hein, parce que je suis blessée donc
et oui, elle vous blesse,
je suis aussi
oui.
dure qu'elle et c'est une véritable spirale. Et,
elle vous blesse aussi parce qu'elle est blessée et comme vous dites c'est une spirale parce qu'au fond n'aurait-elle pas vécu un peu cette période-là, comme si, à 17 ans, même si on revendique farouchement son indépendance, on a encore besoin de ses parents et de leur appui avant de s'envoler. Enfin, l'âge adulte paraît encore très loin, c'est une période où on est encore fragile. Et peut-être qu'elle a vécu tout ça un peu comme une forme d'abandon.
Mais c'est elle qui a demandé à aller en coloc.
Oui, oui, c'est pas tant la coloc, mais peut-être que le fait, les fondations sur lesquelles elle s'appuyait ont éclaté.
Vous voyez, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Le couple que vous formiez, donc cette famille aussi recomposée avec cette jeune sœur, et vous aussi qui étiez forcément moins disponible pour elle.
Oui, et puis très déstabilisée quand même et très fatiguée. Parce que.
Mais c'est-à-dire de maman, vous étiez la fille là. Vous redeveniez la fille avant tout. Fille qui souffrait beaucoup de perdre sa mère.
Oui, parce qu'en plus, ma mère, c'était mon pilier au sens où mon père ne s'est pas occupé de moi. J'avais pas de famille à part ma mère, et donc là tout d'un coup tant que je me suis occupée d'elle d'une certaine façon c'était encore j'étais structurée, mais une fois que après son décès j'ai eu une espèce de vide, un truc épouvantable, quoi, vraiment épouvantable.
Elle s'en est aperçue, votre fille ?
Certainement. Elle a trouvé que... Je me souviens, un jour, je pleurais et elle m'a dit « Oh là là, tous ces déballages, c'est pas la peine. » Vous voyez, c'est...
Oui, elle, je pense que c'est très dur. Elle a, comme on peut l'être à cet âge-là aussi. Très tranchant, très cinglant, il n'y a pas de quartier. Mais comme si, au fond, elle vous découvrait fragile. Peut-être que vous étiez aussi un de ses piliers, même certainement. Et que là, c'est comme si un peu tout s'effondrait autour d'elle, vous ne pensez pas ? Y compris vous. Et que face à ça, parfois, on réagit, l'angoisse peut rendre agressif. Malheureusement, enfin, vous voyez ? On se réagit.
Et ce qui m'inquiète, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Pour vous dire, l'été dernier, elle est venue passer 3 jours de vacances avec son frère et moi.
Oui.
On a passé notre temps à pleurer. Et à un moment, elle m'a dit très durement, il n'y a rien qui va dans ta vie, je ne serai pas ta bouée de sauvetage. Vous voyez, c'est... Et elle se défend.
Oui, elle se défend beaucoup.
Puis contre des choses. Enfin, par exemple, elle m'a dit, moi, j'ai l'intention d'aller faire des études à l'étranger. C'est pas parce que je te préviens, tu ne pourras pas me retenir. Alors que, enfin...
Oui, vous ne cherchez pas, enfin,
mais
vous ne lui
dites
pas.
Mais pas du tout, enfin, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, écoute, tu habites à 3 stations de métro, est-ce que tu m'as déjà vu essayer de m'immiscer chez toi Non, donc pourquoi je t'empêcherais de partir à l'étranger? Qu'est-ce que tu me racontes?
Mais ça montre son ambivalence à elle, au fond, vous voyez? Et une forme de, une certaine, presque une culpabilité. Vous ne lui dites pas, ne pars pas, mais c'est au fond, elle veut partir. Et en même temps, il y a une part d'elle qui a envie de rester, et comme si elle prenait les devants. Elle doit être très ambivalente.
Oui, j'imagine. Je ne sais pas, puisqu'on ne se parle pas. Donc, c'est très...
Vous vous dites quand même des choses. Il y a cet été que vous avez passé, où vous avez pleuré. Enfin, elle doit avoir... Elle a peut-être, elle est à un âge où elle doit se construire, s'émanciper. Vous voyez, elle projette de faire des études, peut-être à l'étranger, et où peut-être qu'elle est désarmée, démunie face à vous, et qu'elle sent déstabilisée, moins bien aussi. Et comme si elle a l'air de dire, écoute, je suis alors. Comme ils peuvent le dire à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, on est souvent tranchant comme une lame, vous voyez, il y a pas, c'est après qu'on met de l'eau dans son vin, la vie passe par là. Mais à cet âge-là, c'est en gros, moi je suis pas ta bouée, te raccroche pas à moi. Mais ce qui veut dire que, au fond, elle s'inquiète peut-être pour vous.
Oui.
Derrière ça, derrière ces paroles dures.
Mais alors moi, j'étais pas du tout habituée à ça, parce que donc mon fils, qui a 5 ans de plus qu'elle, n'a jamais... Enfin, vous voyez, ça s'est jamais passé de cette façon-là avec lui. On a toujours eu une communication très fluide.
C'est un garçon.
Ah, vous me direz, c'est un garçon. Voilà, c'est ça. Il a été beaucoup plus dur avec son père. Avec qui, comme vous disiez, pas de quartier.
Voilà.
Mais elle... c'est l'explosion en plein ciel, quoi. Je m'attends.
Oui, elle vous ménage pas, elle vous ménage pas, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a dû à cette période-là beaucoup la bousculer. Enfin, plus que vous voyez tous ces liens. Ce que vous avez vécu, ce sentiment de solitude et c'est tout ces, et de fait, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Il y a eu la perte de votre mère qui était un pilier, mais il y a votre couple aussi finalement.
Oui, d'ailleurs, on a divorcé.
Ben oui. Cette immense déception de vous trouver face à un étranger qui, au fond, c'était, il supportait pas que vous ne vous occupiez pas de lui, quoi. Enfin, vous voyez, face. Alors, et pour votre fille, au fond, elle, il y a la famille qui a un peu explosé, et aussi la maman qu'elle avait, l'image qu'elle avait de vous. C'est comme si elle se retrouvait plus non plus dans cette solidité. Alors que, en fait, c'est normal d'être ébranlé, ça va revenir. Je pense que ça reviendra de votre... Ça va s'apaiser avec le temps, je pense. Là, il y a quelque chose qui est à vif. Et que finalement, le fait de respecter...
J'avoue que je perds espoir. Parce que maintenant, 5 ans, quand même, c'est long. Hein.
C'est long, mais elle n'a que 22 ans.
Oui, vous avez raison, oui.
Elle n'a que 22 ans et déjà, vous voyez, elle peut quand même dire des choses, même si ce sont des choses... Elle peut quand même... elle n'est pas dans une rupture de lien. Elle peut vous dire... Il y a quelque chose un peu de chez elle aussi, peut-être d'un sentiment de solitude, d'une déception, peut-être de s'être sentie lâchée. Elle a pu être... Elle a dû être très ambivalente. C'est en gros, bon, bah, moi, je pars un peu, je m'éloigne de toute cette souffrance... Mais elle a aussi pu se sentir seule, certainement.
Ben elle me dit des trucs bizarres. Je ne sais pas trop comment comprendre. Par exemple, elle me dit... C'est du texto. Hein. C'est quand même une ado encore, mine de rien, dans sa manière de communiquer.
Mais oui, oui.
Alors elle m'écrit... je n'éprouve ni le besoin, ni l'envie de te voir. Si je le faisais, ce serait par culpabilité ou par pitié. Et tu n'en as pas besoin. Donc... Enfin, d'abord, c'est
la culpabilité
dur.
Est là. Oui, c'est dur. Ben, elle est... oui. Mais la culpabilité est là. Comme si finalement, c'est comme les vacances. Enfin, le séjour à l'étranger.
Oui.
Comme si elle a envie. Puis, peut-être que ma mère, je vais la laisser toute seule. Enfin, voyez, elle est.
Oui.
Est-ce que, au fond, comment allez-vous, vous, aujourd'hui, après toutes ces. Parce que vous me dites, cette solitude, ces liens, votre couple, vous avez divorcé, le lien avec votre fille, vous avez perdu votre mère. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui ?
Ça dépend du jour.
Vous avez perdu du boulot aussi, est-ce que.
Le boulot, alors, donc.
Tout a cédé, là.
Oui, tout a cédé. Ouais, c'est exactement ça. Tout a cédé. Donc, le boulot, je suis partie. Il se trouve que 6 mois après, j'en ai retrouvé.
Vous avez des ressources. Hein.
Oui, j'étais partie. Je m'étais dit, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Donc, j'étais partie passer un peu de temps en Angleterre parce que je me suis dit, de toute façon, ça ne me fera pas de mal de travailler mon anglais. Moi, je travaille dans un milieu professionnel où il est utile. Et il se trouve que juste avant de partir en Angleterre, j'ai été embauchée. Donc, je suis partie en Angleterre et après, j'ai commencé ce nouveau boulot. Bon, après, la vie a fait que 2 ans plus tard, mon patron a été débarqué et donc, on m'a débarqué dans la foulée.
Ah oui,
bon, à l'erreur. donc, ça fait beaucoup de déconstruction les unes derrière les autres, quand même.
Oui,
hein.
Oui.
Voilà. Mais j'ai rebondi parce que à côté de ça, justement, avec l'anglais, j'ai pu faire autre chose, mais en freelance, même si ça n'est pas régulier. Et je me suis remise de la mort de ma mère. Ça a été un peu long. Mais je m'en suis remise. J'ai été très dépitée du point de vue conjugal, disons. Très dépitée. Dépitée, je ne sais pas ce que c'est que ce lapsus, mais très dépitée, en tout cas.
On parle de politique beaucoup en ce moment, on va mettre ça sur ce compte-là.
Voilà, bon, pas dépitée, mais très dépitée.
Oui, oui.
Je
comprends.
Je m'intéresse pas beaucoup aux hommes, je dois dire, depuis. Alors, je fais des tas de choses. Je fais des choses. Je peux pas dire que je reste à tourner en rond dans mon appartement, mais j'ai pas beaucoup de plaisir à les faire. Voilà.
Oui, quand même.
Je suis pas légère, quoi. Oui, j'ai du mal à trouver le déclic où tout d'un coup, on a l'impression qu'on pose son enclume et que...
Est-ce que vous vous êtes fait un peu accompagner?
Ah oui,
pour retrouver
mais depuis,
un peu de cet élan.
Longtemps. Oui.
Depuis longtemps.
Oui,
oui. C'est peut-être ça que votre fille fuit un peu. C'est un bien grand moment, mais vous voyez, dont elle s'écarte. Quand elle parle de culpabilité, de pitié, elle n'y va pas par quatre chemins. Hein. Elle est dure. Mais comme si, au fond, c'est maman, reprends-toi. Vous voyez, comme s'il y avait eu... Il y a un peu de la perte et de l'abandon qui rôde, là, je trouve. Et c'est ce que dit Joseph. D'ailleurs, c'est intéressant, un auditeur qui dit « Vous voyant si triste à la mort de votre mère, si démunie, je conçois que votre fille n'ait pas envie inconsciemment de se retrouver à votre place, de vous perdre. » Il y a quelque chose autour de ça.
Peut-être.
Il y a quelque chose autour de ça qui doit faire angoisser, comme s'il y a un éloignement et de... Comme si... elle aussi a été impactée, déstabilisée. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous étiez redevenue davantage fille que mère. Et en plus, c'est énorme ce que vous avez traversé. Parce que, bon, vous perdez votre mère, vous l'avez accompagnée, mais c'est des moments émotionnellement très durs, très forts. Mais vous perdez, vous parlez de votre mère qui était votre pilier, mais vous perdez votre mari. Votre mari qui vous déçoit au-delà de l'inimaginable. Enfin, c'est vous perdez votre travail.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est on a
deux fois.
Que... Mais oui, les digues sautent. Il faut que vous soyez quand même solide hein, intérieurement. Mais comme vous dites, vous avez pour le moment perdu en légèreté, ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que il y a une crise très profonde là qui vous traverse aussi autour du lien, autour de l'attachement, de la perte. On ne s'en remet pas comme ça, mais ça peut aussi donner. Vous pouvez y puiser une force et retrouver finalement cette légèreté. C'est pas tant la légèreté, c'est le goût de la vie, c'est-à-dire retrouver l'importance, au fond, du lien et de la vie, et notamment du lien à votre fille. Mais peut-être qu'actuellement, il y a eu trop de souffrances d'un coup, trop de choses qui se sont disloquées, et que forcément, ça vous en avez souffert, mais que votre fille aussi, elle en a souffert. Et elle réagit par l'agressivité, par la mise à distance.
Oui, c'est vrai. Et puis, elle nie sa propre... Vous voyez, par exemple, il se trouve qu'elle a attrapé la Covid au tout début.
Ah oui, oui.
Et alors là, elle a rappliqué. elle est venue se réfugier parce qu'elle n'était pas tranquille. Et je lui ai encouragée, de toute façon. Alors, bon, on a eu des relations assez distantes pendant les 3 semaines qu'elle a passées ici.
Oui.
Mais elle a dit un certain nombre de choses, mais elle m'inquiète parce que à propos de la mère de la mort de sa grand-mère, c'est comme si elle mettait une carapace.
Elle se protège.
Oui, elle me dit mais moi je suis pas comme mon frère, en l'occurrence mon fils qui lui ne cache pas du tout ses émotions. Oui. C'est vraiment un garçon qui cache pas ses émotions.
Mais parce qu'elle se protège, votre fille, elle a peut-être peur de s'effondrer.
Mais alors voilà ce qui m'inquiète pour elle. C'est que je me dis, qu'est-ce qui va se passer le jour où elle va laisser toutes ses émotions surgir ?
Pas forcément. Je pense qu'elle a plus été touchée par, même si elle aimait beaucoup sa grand-mère, ça reste c'est quand même sa grand-mère, elle est un personnage un peu plus de second plan, mais par la chute de votre couple et aussi vous, votre propre émotion à ce moment-là, qui a fait que vous étiez débordée. Et je pense qu'il faut pas la lâcher malgré tout, en respectant cette distance, mais lui dire... Vous pouvez lui dire que vous vous inquiétez un peu pour elle, d'ailleurs, puisqu'elle vous ramène toujours à vous. Dire non, je m'inquiète un peu. D'ailleurs, Brigitte dit... sa fille vous dit, je pars, mais retiens-moi. Bah oui, il y a beaucoup de ça. Et quand elle a été mal, vers qui elle s'est tournée? Vers vous. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Moi, je pense que ça va s'arranger avec le temps, mais ne la lâchez pas. Malgré tout. Je vous embrasse. On doit se quitter parce que c'est la fin de l'émission, Hélène. Mais prenez soin de vous aussi.
Écouté.
Au revoir. Au revoir, Hélène. Belle nuit à vous. Et puis alors, je vous rappelle, on n'est pas là ce soir. Hein. Il y a le match France-Portugal en direct sur RTL. On se retrouvera jeudi dès 23h. Je vous embrasse. Belle nuit à vous et à jeudi.